Vous écoutez
RMC.
RMC.
6h-7h.
Wingardium Leviosa.
Ça ne marche pas, monsieur Cicalini.
Ah si.
Votre jardin.
Le sol tremble. Il est vivant.
Il est vivant.
Il est vivant. Il est vivant. Il est vivant.
Oui, il est vivant.
François Sorel.
Patrick Mulan.
Le sol est vivant, les amis.
On va essayer de le rendre vivant.
Avec notre dossier de ce samedi matin qu'on va attaquer dans un instant. Mais auparavant, on parlait de tomates il y a quelques minutes, des tomates bleues, mon cher Patrick. Et ça a inspiré Michael qui nous attend au 32-16 et qui a une question sur ce sujet. Mon cher Michael, bonjour.
Bonjour.
Bienvenue sur RMC. Alors Mickaël, avec son petit smartphone, est allé sur Direct Studio, envoyer sa petite question avec son numéro de téléphone, et il se retrouve sur RMC. Paf ! Vous voyez, ça marche quand même. C'est bien ça, Mickaël ?
Tout à fait.
Eh bien voilà. Vous nous appelez d'où ?
De Saint-Cyr-sur-Gironde.
Très bien. Et on vous écoute, Patrick Mulan vous écoute, Mickaël.
Alors moi, j'aimerais savoir si on peut mettre les plantes de tomates en fin de vie au compost.
Et pourquoi pas ? Ça dépend. Alors, le compost, il faut bien savoir une chose. On insère dans le compost que des plantes en parfaite santé.
Et oui.
C'est-à-dire que toutes les plantes qui ont été attaquées, par exemple, par des maladies comme le mildiou sur la tomate, etc., ça, bien entendu, on ne les composte pas. Alors après, effectivement, on pourrait se poser la question de savoir si la tomate, du fait de la toxicité de ces parties vertes, peut être compostées sans risque.
Pourquoi les parties vertes de la tomate sont toxiques ?
C'est une solanacée, effectivement, comme toutes les solanacées, la partie verte est toxique.
Et d'ailleurs,
la tomate, lorsqu'elle est arrivée en Europe, elle était arrivée comme plante d'ornement. Les gens, sur le catalogue Villemorin de la fin des années 1700, on pensait que c'était donc une plante ornementale. Il a fallu attendre, oui, pratiquement entre l'introduction de la tomate en Europe et sa consommation courante, il a fallu un siècle pratiquement. Parce que famille solanacée, on craignait, etc. Et avec la couleur, etc. Bon, voilà. Donc, du coup, on peut se poser cette question, mais la réponse est simple, c'est que la dégradation, et on va d'ailleurs, ça va presque introduire le sujet suivant, c'est la dégradation par les micro-organismes des éléments naturels de la plante, donc qui va les transformer en compost, fait que les éléments toxiques vont disparaître. Donc vous pouvez composter des tomates sans problème. Bon, on ne fait pas du compost qu'avec des tomates, mais il n'y a pas de problème particulier. Et idem pour les fruits, par exemple, les fruits qui ne sont pas arrivés à maturité ou des fruits qui se sont dégradés naturellement. Quand vous avez un fruit, par exemple, qui a été cogné et qui s'est pourri, etc., vous pouvez le mettre au compost. Et bon, on va pas faire un sujet compost maintenant, on en fera un petit peu plus tard dans l'automne.
Ouais, ouais.
Mais pensez à une chose, pour faire un bon compost, il faut un gros volume. Et pourquoi ? Parce qu'il faut de la chaleur. Et quand cette chaleur qui est créée par les micro-organismes qui font la décomposition monte suffisamment, et bien là, vous détruisez tous les germes pathogènes potentiels.
Oui. Voilà, Mickaël. Donc, vous pouvez mettre vos plantes tomates en fin de vie dans votre compost. Il n'y a pas de souci.
Patrick, tous les légumes, tous les restes de légumes, ça peut aller au compost.
Bonne journée, Mickaël. Merci pour votre appel.
Merci.
À bientôt. Et si tout comme Mickaël, vous voulez joindre Patrick Mulan, allez-y, le 32-16, l'appli RMC Direct Studio. En quelques minutes, vous pouvez questionner Patrick Mulan ou l'un de nos experts. Patrick, notre dossier de ce samedi matin, comment rendre son sol vivant ? C'est vrai qu'on reste finalement dans le même type de sujet.
Voilà,
hein.
Parce qu'en fait, on va parler beaucoup de matière organique et de décomposition de la matière organique par des micro-organismes ou par les éléments vivants qu'il y a dans le sol. Alors, parce que quand vous regardez un vieux dictionnaire, la définition du sol, c'est, on vous dit que c'est généralement la couche superficielle de l'écorce terrestre. Et donc, on voit ça surtout dans son aspect minéral. Mais plus les études avancent en la matière, et plus on se rend compte que le sol est un écosystème à lui tout seul. il y a une vie invraisemblable dans le sol. Alors, bien entendu, c'est pas forcément très spectaculaire. Mmh. On va dire que pratiquement, ce qui est le plus, enfin, on va dire que l'éléphant du sol, c'est la taupe. Vous voyez, le plus gros mammifère du sol, c'est la taupe. Mais derrière ça, vous avez des vers, des champignons, des champignons qui peuvent être gros ou microscopiques, des acariens, énormément de sortes d'insectes, des fourmis, des termites, par exemple, des vers. Et pas, je dis pas simplement le lombric, le ver de terre, mais plein de vers, des sortes de vers extraordinaires. Et d'ailleurs, on estime que l'ensemble de la faune du sol représente aujourd'hui plus de 80% de la biodiversité animale connue et potentielle, et que les vers de terre, alors l'ensemble des vers qu'il y a dans le sol, constitueraient la première biomasse animale.
C'est dingue.
Du globe. Mmh. Donc, on les voit pas, on marche dessus, on n'y pense pas, mais ils sont extrêmement présent, extrêmement important.
Et on dit que 90% de la vie souterraine se concentre dans les 15 premiers centimètres du sol.
Vous avez raison, François, de remarquer cela, parce que ça montre que la partie superficielle est la plus importante et qu'il ne va pas falloir trop la bouleverser de manière à ce que tout ce petit monde-là continue à effectuer sa vie correctement. Donc ça, c'est une nouvelle notion qui va à l'encontre, on va dire, des grands principes de l'agriculture traditionnelle, qui continue d'ailleurs à utiliser les mêmes techniques. On voit encore en ce moment des gros tracteurs qui sont en train de labourer profondément. Nous, les jardiniers, on doit respecter cela et on doit travailler en douceur, plutôt légèrement, dans les 15 premiers centimètres, 20 centimètres au maximum, et pas faire des gros défoncements.
Alors justement, on parle de cette fameuse matière organique. Qu'est-ce que c'est qu'exactement cette matière organique ?
Alors, la matière organique, c'est tous les éléments d'origine naturelle, alors qui peuvent être végétaux, les feuilles, les aiguilles de pin, les vieilles tiges, les racines, les morceaux d'écorce, les pollens, qui vont se décomposer, et également tous les déchets animaux, alors déjà les cadavres de tous ces petits éléments du sol, ou même, parfois même, de plus gros, un oiseau par exemple qui meurt,
va être attaqué,
ça va se décomposer, qui vont, tout cela, sous l'action de micro-organismes, se dégrader et créer, effectivement, une matière qui va, en évoluant, devenir ce que l'on appelle de l'humus. Et là, c'est la partie vivante de notre sol.
Alors, qu'est-ce que c'est que l'humus ? Tiens, rentrons un petit peu dans les détails.
Alors, c'est un des constituants principaux du sol. Dans un sol, vous avez quoi ? Vous avez de l'argile, du calcaire, du sable, de la silice, plus, donc, de la matière organique sous forme d'humus. Et cet humus, c'est donc la matière organique décomposée sous l'action de ces fameux micro-organismes. Donc c'est une matière qui ressemble vaguement à du terreau. Donc c'est noir, souvent, enfin très foncé, c'est souple, c'est aéré, ça absorbe et ça retient l'eau, et en général ça a un pH plutôt un peu acide, mais ça peut varier en fonction donc de l'origine de cette matière organique.
Quel rôle justement joue cet humus dans le concept du sol vivant ?
Alors c'est une véritable éponge naturelle déjà, c'est-à-dire que l'humus, lui, va absorber l'eau lorsqu'il pleut, éviter donc le lessivage et servir, on va dire, de garde-manger aux plantes. Pourquoi ? Parce qu'en fait, il va conserver les éléments minéraux qui sont utiles aux plantes. Parce que, attention, une plante ne se nourrit pas de matière organique comme certains peuvent le penser. Mais l'humus, donc cette matière organique, elle se décompose encore en permanence et rejette, si je puis dire, des éléments minéraux qui, eux, sont absorbés par les racines, puisque les racines, c'est quoi ? C'est simplement des espèces de pompes. Les petits poils, qu'on appelle poils absorbants, eux, ne font que de pomper de l'eau dans laquelle sont dissous des sels minéraux qui servent à l'alimentation de la plante.
Est-ce qu'en regardant, par exemple, son sol ou en le sentant, déjà, on peut avoir une petite indication de la qualité biologique de notre sol ?
Oui, bien sûr. Si vous avez un sol qui est déjà d'une couleur assez foncée et qui a une odeur un peu de sous-bois, alors attention, si ça sent trop le champignon,
c'est pas bon signe.
Ça peut être mauvais, notamment avec une attaque de ce qu'on appelle le pourrier, l'armillaire couleur de miel, où là on a vraiment une sensation vraiment de champignon. Ça sent exactement comme un champignon de Paris.
D'accord.
Mais l'humus, c'est autre chose. C'est la forêt.
Mm-hmm.
En fait, quand ça sent la forêt,
bien sûr.
Quand votre
la feuille un peu décomposée,
voilà,
tout
exactement.
Ça.
Là, vous êtes bien, hein, de manière à se dire que là, on est dans un sol humifère. Alors, vous avez aussi le fameux rapport C sur N dont on parle souvent quand on est un peu dans la pédologie. C'est le rapport entre la proportion de carbone et la proportion d'azote. Et ce rapport C sur N, il doit être bas parce que ça vous donne que l'activité biologique est plus forte dans un rapport C sur N bas. Mais vous n'avez pas les moyens, en tant qu'amateur, de mesurer vous-même.
Voilà pour ce sujet passionnant, Patrick, et on va revenir dans un instant. On va poursuivre. Oui, vous vouliez rajouter quelque chose
surtout,
rapidement.
Donc, mettez de la matière organique régulièrement dans votre sol.
Voilà. Pour le rendre vivant. Voilà. 7h20. Claudie sera avec nous au 32-16. Elle veut vous parler de ses agapantes, Patrick. Et puis, on retrouvera la météo du jardinier. Les coups de cœur de Patrick Mélan pour terminer ce rendez-vous jardin. 32-16 pour nous joindre. À tout de suite.